7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 décembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, sans mettre plein les yeux, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris aura lieu pour la première fois de l'histoire hors du stade olympique. La Seine, pour y faire défiler les 10 000 athlètes, la cérémonie vient d'être officiellement dévoilée. On voit ça avec vous Anaïs, après les autres titres.
Course du vaccin contre le variant Omicron, mais c'est pas gagné pour la piqûre en pharmacie le dimanche, on vous explique pourquoi. La douche froide tunisienne du président Saïed, le Parlement reste suspendu encore un an. Et puis l'idée cadeau du service culture des génériques de séries revisités au violon et violoncelle à découvrir à la fin du journal.
Les invités du 7-9 ce matin, 7h50 avec vous Léa.
Oui, c'est l'artiste dont tout le monde parle. Elle expose ses forêts en carton dans deux grands musées en ce moment, celui de la chasse et au musée de Giverny. Et ça cartonne, la plasticienne Eva Jospin sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale à 8h20 avec le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Vous pourrez dialoguer avec lui, le standard est ouvert et vous attend 01 45 24 7000.
France Inter.
Nous sommes le 26 juillet 2024. Il fait beau, en tout cas on croise les doigts et on imagine des dizaines de milliers de spectateurs sur les quais de Seine à Paris. C'est l'ouverture des Jeux Olympiques. 4 heures de spectacle grandiose, unique dans l'histoire des Jeux. Jamais une ville haute n'avait osé cela. Oui, Nicolas, le secret de Polichinelle a été levé hier. Le comité d'organisation des JO a officialisé ce projet fou de cérémonie d'ouverture.
La cérémonie d'ouverture aura lieu hors du stade olympique, en plein cœur de la capitale, sur la Seine. C'est une première dans l'histoire des Jeux. 10 500 athlètes embarqueront sur 160 bateaux, des barges. Du pont d'Austerlitz, ils traverseront Paris, d'est en ouest jusqu'au Trocadéro pour un concert de clôture face à la Tour Eiffel. En passant devant des monuments emblématiques, Notre-Dame, le Louvre, les Invalides. Plus de 600 000 spectateurs attendus le long des quais et sur les ponts. C'est 10 fois plus qu'un stade de France rempli, soulignent les organisateurs. Le nageur Florent Manaudou est ravi.
Avec plus d'un demi-million de spectateurs français qui vont nous soutenir. Ils nous ont manqué lors des derniers Jeux Olympiques, donc j'ai hâte de voir cette cérémonie d'ouverture et d'y participer.
Alors une telle cérémonie demande un dispositif de sécurité inédit, négocié pendant 2 ans avec l'État. Pas de détails encore sur le déploiement des forces de l'ordre. Le comité Paris 2024 veut pouvoir compter sur l'armée en renfort de la police.
Grande première aussi, du public pourra assister gratuitement à cette cérémonie, pas partout. Les quais les plus bas près de la Seine et les ponts seront aménagés en tribune avec billets et invitations VIP, certaines péniches recevront du public, mais sur les quais les plus hauts, l'accès sera libre. 600 000 spectateurs pour encourager les athlètes. La judokate Amandine Bouchard en rêve déjà.
Ça va être incroyable déjà, ne serait-ce que d'être sur le bateau. Ça va être un truc de dingue de traverser tout Paris, voir ces monuments, voir toutes ces personnes sur les quais. Moi, je regardais là les images, j'avais des frissons. J'avais envie d'y être déjà. Allez, c'est parti, on y va, allez. On met un coup de speed. Donc non, ça va être incroyable. On va pas savoir où donner de la tête. On va voir des gens partout, des gens qui vont nous encourager. Moi, ils vont me donner du power. Hein. Ça va être un truc de dingue.
Ouais, Amandine Bouchard en argent et or à Tokyo avec Jérôme Val. Un truc de dingue aussi. Le spectacle qui sera sur les toits. Artistes suspendus, fresques projetées sur les monuments quant à la flamme olympique. Où sera-t-elle allumée? C'est encore top secret. Rendez-vous l'année prochaine.
Il est 7h04. C'est une photo à l'instant T, Anaïs. Et qui en dit long sur la situation?
42 nouveaux cas de Covid enregistrés hier dans le championnat anglais de football. Jamais il n'y en avait eu autant d'un coup. Illustration de ce raz-de-marée qui submerge l'Angleterre. 50 000 nouveaux cas quotidiens, un premier mort officiel d'Omicron et les bouchées doubles, triples pour vacciner. Le gouvernement anglais veut doubler le nombre de troisième doses offertes pour passer à 1 million par jour avant le 31 décembre. En France, pour accélérer la vaccination, les pharmacies peuvent rester ouvertes le dimanche avec à la clé une prime de 5 euros par piqûre versée au personnel. Mais ce n'est pas suffisant selon Éric Mion de l'Union nationale des pharmaciens de France.
Pour les pharmacies de garde, ça peut être intéressant parce qu'elles sont de garde, elles vont peut-être pouvoir s'organiser et rajouter une trentaine ou peut-être une cinquantaine de vaccinations, ce sera une bonne chose. Pour les autres, ça risque de très mal ou très peu fonctionner, c'est indéniable, on en est convaincu. En tout cas, tous les confrères d'Île-de-France qu'on a pu solliciter ne vont pas répondre présent. Ça fonctionnera pas très bien, malheureusement. Nos équipes sont peu nombreuses, épuisées. Pour les gens qui vont travailler dans les centres de vaccination, il y a une rémunération à la demi-journée, ce qui est assez simple parce que ça permet aux gens de savoir quelle sera leur rémunération. Nous, il faut qu'on puisse s'assurer, pour avoir une rémunération, d'avoir un certain nombre de rendez-vous. Si on veut ouvrir et bien organiser les vaccins, il faut souvent un minimum de 3 personnes. en majoration d'un coût salarié le dimanche qui est de plus de 50%, ça représente une somme conséquente. Si vous n'avez pas un grand nombre de vaccins à prévoir, et vous ne pouvez pas en prévoir trop non plus, l'économie n'est pas au rendez-vous en termes de rentabilité pour l'officine. Il fallait vraiment prévoir un mode de rémunération beaucoup mieux adapté. Donc perdre de l'argent sur des équipes épuisées, c'est impossible.
Éric Mion, pharmacien à Paris, avec Yann Gallic. 5% des plus de 65 ans n'ont toujours pas leur dose de rappel. Leur passe sera désactivé demain. Hier, le Conseil scientifique a alerté sur le risque de croissance rapide en France du variant Omicron. Les services de réanimation continuent de se remplir. On fait un point complet à 8h. Dans ce contexte, la fermeture hier des urgences de l'hôpital de Senlis dans l'Oise pour une durée indéterminée, manque de médecins. Il y a 13 équivalents temps plein quand il en faudrait 22 à 27. Un bassin de 100 000 habitants n'a plus ni urgence ni SMUR, se lamente le comité de défense de l'hôpital de Senlis. On saura demain s'il y aura des trains à Noël. 3 syndicats, la CGT, l'UNSA et Sudrail, ont déposé des préavis de grève sur les TGV Sud-Est entre Paris et Marseille. Pour le premier week-end des vacances de vendredi à dimanche, la question des salaires s'invite donc au pied du sapin, Lauriane Delanoë.
Ces syndicats demandent une reconnaissance financière pour les efforts fournis pendant la pandémie. On a été là pendant les confinements pour faire rouler les trains, souligne un représentant de Sudrail. Fabien Villedieu poursuit. On veut au moins une prime Covid, comme il y en a dans d'autres entreprises. Au mieux, la revendication, c'est une augmentation générale des salaires. Les salaires à la SNCF sont bloqués depuis 7 ans et pas de hausse à l'horizon dans l'accord salarial qui vient d'être négocié. La direction a proposé une prime pouvoir d'achat jusqu'à 600 euros pour les cheminots en bas de la grille. Mais la CGT cheminots et Sudrail ont rejeté ce texte la semaine dernière. Le compte n'y est pas, selon eux. Ces syndicats s'étaient déjà mobilisés il y a tout juste un mois, mi-novembre, justement pour demander cette hausse générale. Ils avaient prévenu à ce moment-là, si la direction ne les écoutait pas, ils appelleraient à la grève pour les vacances de fin d'année. Nous y sommes. Les représentants syndicaux espèrent maintenant obtenir un geste plus large de la SNCF avant le week-end.
Lauriane Delanoë, autre revendication salariale, autre grève. Aujourd'hui, celle des animateurs du périscolaire. Plus d'une centaine de rassemblements prévus. 40% des animateurs sont contractuels à temps partiel, souvent subis pour des salaires frisant la misère, avec des fins de carrière à 200 ou 300 euros de plus que le SMIC, disent les syndicats. Le pouvoir d'achat des Français, à l'aune du bilan du quinquennat, le président de la République viendra le défendre à la télévision sans déclarer sa candidature. Demain soir, plus de 2 heures en prime time sur TF1 et LCI. Ce qui a le don d'exaspérer ses opposants, la candidate LR Valérie Pécresse va saisir le CSA malgré un goût de déjà-vu. Maxence Lambrecq.
6 mois avant la présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy réunissait un soir 11 millions de téléspectateurs pour une émission « Face à la crise » enregistrée à l'Élysée. Le lendemain, le PS criait au mélange des genres, la presse titrait « Sarkozy déjà en campagne, pas encore candidat ». Et dans le gouvernement, la ministre du budget Valérie Pécresse défendait son champion en pleine action, loin de tout calcul. 10 ans plus tard, la candidate LR a évidemment changé de discours.
On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre.
Valérie Pécresse, avec BFM hier, sait bien que sa saisine du CSA ne changera pas la donne, car la période électorale ne commencera que le 1er janvier prochain, et en dehors de celle-ci, l'exécutif doit occuper un tiers du temps de parole politique dans les médias, quels que soient les formats. Après une longue séquence Zemmour et Pécresse, il fallait bien qu'on reprenne la main. Comment un conseiller du pouvoir ? C'est vrai que ça aurait pu être plus discret, mais c'est de bonne guerre. L'Élysée veut marquer les esprits avant la trêve de Noël.
Et l'entretien est déjà enregistré. Il sera donc diffusé demain à 21h. Monseigneur Aupetit annonce qu'il va porter plainte pour diffamation. L'archevêque de Paris, relevé de ses fonctions, dénonce les articles de presse, les photos, le montrant en compagnie d'une théologienne belge. Si vous ne pouvez plus manger avec une amie sans qu'un paparazzi vous photographie, dans quel monde vit-on ? Dit-il dans une interview au Parisien aujourd'hui en France.
7h10, coup de théâtre hier soir en Tunisie.
Et l'inquiétude de la société civile est subitement montée d'un cran. Discours à la télévision du président Saïed. Il annonce la prolongation de l'état d'exception. Le Parlement reste suspendu encore un an et les consultations populaires lancées pour modifier la Constitution ne rassurent pas. À Tunis, Maureen Mercier.
Face à sa télévision, Question, Sonia, activiste de la société civile, est
en colère.
En colère.
Ça n'a aucun sens. Il y a la chose qui te laisse bouche bée.
De facto, le président Kais Saied annonce qu'il conserve les pleins pouvoirs jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives dans un an.
Il a tout piétiné. Ça fait réellement très peur. On se retrouve dans un état où les institutions sont en train de s'effriter. Le ministère de l'Intérieur, c'est le seul ministère qui tient en fait debout parce que Kais Saied met tout son poids sur ce ministère-là. Et on va revenir vers un état policier.
Sonia est d'autant plus en colère que lors de la dernière élection présidentielle, elle a voté pour Kais Saied.
Ce mec a menti, bon Dieu. Donc on a eu confiance en lui. Moi j'ai voté pour lui dans les deux tours. Mais c'est pour ça que j'ai cette rage. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à croire que c'est le monsieur en qui j'ai eu confiance. C'est un dictateur.
De supportrice de Kais Saied à membre de l'opposition désormais.
On sortira, on va rester dans la rue. On aura énormément de problèmes à le déloger, mais il ne restera pas.
Les opposants à Kais Saied prévoient de manifester ce vendredi 17 décembre, jour anniversaire du déclenchement de la révolution de 2011. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
En Indonésie, un tremblement de terre de magnitude 7,3 cette nuit dans la mer de Flores. L'alerte au tsunami a été levée. Le tieboudien sénégalais, ce plat national à base de poissons, de riz et de légumes, va-t-il faire son entrée au patrimoine immatériel mondial ? L'UNESCO se prononce cet après-midi dans la liste des probables nominés. Aussi la rumba congolaise, on vous raconte à 8h. Et on reste en musique pour ouvrir ce matin la case 14 du calendrier de l'Avent du service culture d'Inter. L'album série des sœurs Berthollet, Camille au violon, Julie au violoncelle a fait replonger Stéphane Capron dans les génériques des séries télé.
C'est un album pour toute la famille car il mêle les génériques de séries et de films sur plusieurs décennies, des années 60 à nos jours, de la Panthère Rose à la Casa del Papel. Il rend hommage à de grands compositeurs de musique, John Barry, Lalo Schifrin, Max Richter, 23 morceaux, tous réarrangés par Mathieu Gonnet et les sœurs Camille et Julie Berthollet.
Certaines, à la base, sonnent déjà bien symphoniques avec des belles parties de corps, comme par exemple Downton Abbey ou The Crown. C'est quelque chose qu'on voulait garder parce que ça fait partie de l'identité sonore de la série. Puis pour d'autres, comme par exemple Girls Like You, oui.
Maroon 5 qui est dans Bridgerton, là on s'est amusé vu que c'est une chanson plus pop, à la reprendre en quatuor en empilant nos instruments mais en faisant tout, juste toutes les deux. Du coup on s'est bien éclaté, ou le jeu de la dame, on l'a fait plus intimiste. Outlander, forcément c'était celtique, donc là on a pris un peu de perte. Du chant, mais pas forcément d'orchestre. Donc on a essayé de s'adapter à chaque univers des séries, mais c'est ça qui est génial, c'est que chaque série a sa propre identité.
Dans cet album, les génériques de films et de séries étrangères sont majoritaires. La France est sauvée par Lupin et par 10% de succès planétaire.
Voilà, vous avez reconnu, hein, Nicolas.
10%.
Ouais, bravo, le CD série de Camille et Julie Berthollet au prix de 16,99€ sous le sapin.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes. Comment mieux diagnostiquer la maladie d'Alzheimer?